Excellences, mesdames et messieurs, le voyage que vous effectuez au Moyen-Orient témoigne une fois de plus de l'intérêt que l'Europe porte à cette région charnière et caisse de résonance au conflit qui agite le monde. En ce moment précis où le Moyen-Orient est de nouveau en proie à la fièvre, il est réconfortant de voir combien l'Europe demeure préoccupée par nos problèmes, soucieuse du maintien de la paix entre les différents pays de la région, toujours prête à contribuer à leur développement. Il était naturel que votre curiosité des choses du Moyen-Orient vous conduise au Liban, et plus particulièrement dans cette portion du territoire libanais que la résistance libanaise a réussi à arracher à l'occupation syro-palestinienne. C'est ici que se trouve le dernier bastion de la liberté, sur quoi repose l'indépendance nationale et qui permet d'assurer à l'État un minimum de souveraineté. Au nom de cette résistance, au nom des forces libanaises, permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue dans ce Liban libéré. Est-il besoin de souligner combien la défense du pays contre des forces supérieures en nombre et en qualité d'équipement a coûté de sacrifices tout au long de cette année de guerre? Mais l'on ne vient jamais à bout des peuples résolus de se défendre, et bien que le Liban offre encore, lui, l'aspect d'un pays émietté, que les trois quarts de son territoire sont entre les mains de l'adversaire, nous savons, vous savez, tout le monde sait que pour nous, la partie sera gagnée. Depuis le début des hostilités, nous n'en avons pas douté un seul jour, tandis que partout dans le monde, on sonnait déjà le glas de la mort du Liban. Le peuple libanais est constitué de groupes socioculturels différents, enserrés dans ces montagnes que vous voyez à l'horizon, et motivés par le même désir de liberté. Échapper à l'oppression, c'est ce qui a conduit jadis nos aïeux à s'établir sur cette terre rude, sans ressources naturelles, qui n'a d'autre avantage que de constituer un relief dur à l'agresseur. Quand on connaît l'histoire de ce peuple, son endurance dans les épreuves, la tranquille opiniâtreté du montagnard replié dans ses rochers à l'affût de l'ennemi, on mesure l'inanité de cette folle entreprise qui consistait à faire de notre pays une patrie de substitution aux réfugiés palestiniens ou à dissoudre notre entité dans un vaste ensemble moyen-oriental. L'unité d'une nation n'a pas besoin d'être reconstituée. Elle existe où la nation elle-même n'existe pas. C'est la réunification du territoire qu'il reste aujourd'hui à réaliser. Elle passe par le retrait des forces étrangères. Sa réalisation ne dépend nullement de facteurs internes. Il est vrai que pour fausser le problème et retarder ce retrait, l'on soutient. Comme on vous l'a certainement dit, qu'il y a à cela un préalable, l'entente entre Libanais. C'est là un leurre grossier, une manœuvre dilatoire des Syriens pour retarder leur départ. Ils font tenir ces propos par des Libanais à leur solde ou par des personnes qui ne mesurent pas suffisamment leur portée dans leurs déclarations et les amplifient à souhait. Comment croire en effet qu'à la sécurité que leur apporterait l'État par l'intermédiaire de son armée, les habitants des régions occupées préfèrent cohabiter avec le terrorisme et vivre à la merci de mercenaires à la solde d'on ne sait qui pour on ne sait quoi? Non, il faut mettre un terme à cette farce de l'entente et passer aux choses sérieuses, vider le vrai problème, celui de l'occupation du pays par des forces étrangères. Ces forces, comme il se doit, œuvrent nuit et jour à la division. Si l'unité de la nation n'est pas altérée pour autant, il est à craindre cependant que la perversité du temps ne creuse davantage la coupure actuelle et n'approfondisse les divergences par de nouvelles habitudes qui se créent de part et d'autre. En Allemagne, en Corée, en Chine, la division de l'État en deux remonte déjà à plusieurs décennies. Ailleurs, l'Inde, le Pakistan, Chypre se sont scindés en nations différentes. On voit par là combien l'enjeu est redoutable. Pour nous, 7 ans de séparation, c'est déjà beaucoup. Nous n'en supporterons pas davantage. Nous ne laisserons pas passer un nouveau sectionnat sur une telle situation. Il faut craindre aussi le retard que la persistance de la crise entraîne dans le développement du pays. La guerre a laissé partout des ruines. Aucun point du pays n'y a échappé. Elle a porté un coup sévère à notre industrie naissante, anéanti notre industrie hôtelière, paralysé le tourisme, retarder les travaux d'infrastructure. À la veille de la guerre, le Liban était en tête des pays du tiers-monde et même dépassait certains pays européens au plan du revenu par tête d'habitant. Beyrouth passait pour être l'une des plus grandes places financières du monde. Il est vrai que l'ingéniosité du Libanais, sa remarquable faculté d'adaptation, ses efforts, sa foi dans la pérennité du pays ont permis à la population de maintenir un niveau de vie décent, mais ceci n'a pu être réalisé qu'au prix d'énormes sacrifices. Ainsi, de quelque côté qu'on se place, il apparaît urgent de mettre fin à la guerre. Il y a en ce moment des échéances qui ne supportent plus les atermoiements. Le Moyen-Orient est en pleine ébullition. La crise libanaise a peut-être permis jusque-là de résorber une part importante des conflits qui sous-tendent les rapports entre les pays et les peuples de la région. Tous ces courants tumultueux se sont brisés au pied de nos montagnes, mais voici maintenant que les ondes de choc refluent vers leur point d'origine. C'est dire qu'aujourd'hui, la paix au Moyen-Orient est gravement compromise. On entend dire souvent que la solution de la crise libanaise est liée au règlement du problème palestinien et que celui-ci constitue la clé de voûte d'un règlement global du conflit. Nous disons pour notre part que tant que le Liban n'est pas stabilisé, son territoire entièrement libéré et l'entière souveraineté rendue à l'État, il est vain de songer à établir une paix définitive. Par sa place centrale au cœur de l'ordonnancement moyen-oriental, son rôle de promoteur de la culture et de la technologie occidentale dans le monde arabe, son système politique et économique, le Liban détient la clé de la guerre et de la paix. La dernière expérience de Camp David le montre bien. Alphonse de Lamartine, qui faisait jadis en Orient un périple comme le vôtre et qui était poète et donc visionnaire, l'avait très bien compris. En Égypte, disait-il, il y a un homme, au Liban, il y a un peuple. Rien ne peut mieux favoriser aujourd'hui un affrontement armé syro-israélien que de laisser l'armée syrienne bivouaquer au Liban face à Israël. À quoi aurait-il servi que des forces onusiennes viennent séparer les deux armées au Golan dès lors que celles-ci vont se retrouver vis-à-vis à quelques kilomètres de là, de part et d'autre de la frontière libanaise? Et pourquoi la finule au Liban Sud, tant que l'OLP dispose d'une partie du territoire libanais pour y lever des armées, stocker des munitions, organiser des raids et constituer un véritable État? Voilà dans ces grandes lignes ce dossier libanais qui a fait couler beaucoup d'encre et beaucoup de sang. Nous ne ménageons aucun effort pour convaincre les Syriens et les Palestiniens de mettre un terme au conflit. À cette fin, nous avons proposé que des négociations aient lieu entre ces derniers et l'État libanais sous l'égide d'un comité arabe dont font partie l'Arabie Saoudite et le Koweït. Les Arabes vont, viennent, se réunissent, font des déclarations et mettent des vœux pieux. Toutes ces démarches se sont heurtées jusque-là à l'intransigeance des occupants. En réalité, tout le monde est d'accord que la vraie solution de la crise consiste dans le retrait des forces étrangères. Mais comment venir à bout d'une politique de « j'y suis, j'y reste » Ce sont les moyens de persuasion que nous n'avons pas encore trouvés Il faut que toute la communauté internationale prenne ses responsabilités et que nous œuvrions tous ensemble pour que de part et d'autre, on n'en arrive pas aux moyens les plus radicaux. Je lève mon verre à la paix.